aura lieu à l'ENS à Paris, Make Our Lessons Green Again, une journée de cours à l'initiative d'organisations de jeunes qui se mobilisent autour des enjeux climatiques et environnementaux. L'idée étant de réfléchir toute la journée à la façon d'éduquer les générations présentes et futures au changement climatique et à la question de la biodiversité. Les jeunes se mobilisent donc face aux lacunes dans ce domaine et afin d'appuyer une proposition de loi déposée en septembre dernier par des députés sur l'intégration des enjeux climatiques, environnementaux et de biodiversité dans l'enseignement supérieur, eh bien ça bouge en ce moment. On en discute dans un instant avec mes invités qui sont engagés dans cette initiative ou qui ont une réflexion globale sur l'enseignement des questions touchant à l'environnement. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Dans quelques minutes, on passe au vert et vous êtes également intéressé à ce sujet.
Oui, je suis allée au ministère de l'Éducation nationale et à celui de l'enseignement supérieur pour voir ce qu'ils ont déjà sur le feu et ce qu'ils ont aussi surtout dans leur tiroir.
Dans la deuxième demi-heure, nous découvrirons un de vos reportages, Antoine Lee. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Avec le portrait aujourd'hui d'un boulanger, pourquoi ?
Un boulanger particulier parce que c'est un boulanger itinérant et un grand défenseur de l'environnement.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï avec aujourd'hui à la technique Pierre-Yves de Rolin.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Make Our Lessons Green Again, c'est donc une journée de cours exceptionnelle demain à l'ENS à Paris, organisée donc par un regroupement d'organisations de jeunesse qui se mobilisent pour un cours, pour des cours dans le futur, en tout cas à la hauteur des enjeux autour du climat et de l'environnement. Margot Duvivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parmi nos trois invités aujourd'hui, vous êtes présidente du réseau français des étudiants pour le développement durable, ça s'appelle le REFED.
Le REFED.
Et vous êtes en Master 2 à Sciences Po en politique environnementale. À vos côtés, Martial Breton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de Climates, c'est un laboratoire d'idées et d'action internationale qui réunit de jeunes professionnels autour des enjeux climatiques. Et puis enfin, Éric Guilliardi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes océanographe et climatologue au CNRS et vous êtes membre du conseil stratégique de l'OCE.
L'Office for Climate Education, donc le bureau pour l'éducation au climat.
Et l'actualité, c'est donc demain ce rendez-vous, 9h-18h, c'est donc à l'ENS à Paris. Make Our Lessons Green Again, c'est une formule hommage à Emmanuel Macron ou un clin d'œil ironique plutôt à ses propos, Margot ?
Surtout un clin d'œil ironique, on cherche un nom qui fasse son effet et c'était facile de reprendre... ce clin d'œil que tout le monde connaît.
Ouais. Alors, quelle était l'idée exactement, Margot Duvivier, de cette journée ? Alors, expliquez-nous un petit peu pour qu'on comprenne bien.
Donc, en septembre, plusieurs députés ont déposé une proposition de loi pour intégrer les enjeux climatiques, environnementaux dans l'enseignement supérieur de façon obligatoire et non seulement avoir un socle commun, des connaissances de base pour tous les étudiants, mais aussi que dans chaque filière, ces enjeux soient enseignés de manière adaptée pour que chaque étudiant qui sera dans la vie active très bientôt puisse savoir en quoi sa profession a un impact sur ses enjeux et comment lui peut agir aussi dans son travail.
Et donc l'idée, Martial Breton, c'était justement de proposer une journée de cours demain avec des gens assez différents. Ça va du scientifique au philosophe en passant par quelques députés, je crois, qui vont venir vous voir. Et qu'est-ce qui va se passer alors tout au long de cette journée ?
L'objectif, c'est de montrer comment on pourrait inclure et intégrer ces enjeux, climat, biodiversité, environnement, dans des formations, des études, des cursus très divers, autant sur l'ingénierie, sur l'urbanisme, par exemple, comment on imagine la ville de demain, sur la philosophie, le droit, quel rapport de l'humain à la nature, le droit environnemental, etc. Donc c'est une succession de conférences où on fait intervenir entre un, deux ou trois intervenants qu'on a essayé de varier, à la fois des universitaires, des enseignants-chercheurs, mais aussi potentiellement des professionnels, et des interventions de personnes qui vont nous donner soit des étudiants, qui sont par exemple impliqués dans des associations étudiantes, par exemple en médecine, ou des personnes qui sont impliquées dans les questions-là, comme Ange Ansour, qui est des Saventuriers et du collectif des Enseignants pour la Planète, ou Emmanuel Thiblou, qui est directeur de l'École Nationale des Arts Décoratifs, qu'on pourrait imaginer assez éloigné, les arts déco, et finalement... on voit qu'il y a un intérêt, il y a une envie de parler des enjeux environnementaux dans ces formations.
Ouais, Dominique Bourg, le philosophe, Valérie Masson-Delmotte, la climatologue, seront également avec vous donc demain. Je crois que l'idée est née aussi à un rapport qui avait été publié, je crois, en mars dernier sur la mobilisation autour de l'enseignement supérieur pour le climat, justement. C'était Shift Projects qui proposait justement ce rapport. Et ça vous a donné envie, justement, Margot Duvivier, d'aller un petit peu au-delà ?
Oui, justement, ce rapport montrait, enfin, ce qu'on a tous constaté en tant qu'étudiant, que ces matières sont pas du tout enseignées dans nos cursus. Enfin, moi, j'ai fait 4 ans d'études sans en entendre jamais parler, ouais, avant de me spécialiser et de prendre un master sur le sujet. Mm-hmm. Donc oui, il révélait, je crois, que 11% seulement des cours avaient un cours obligatoire sur les enjeux énergie-climat. Donc c'est beaucoup trop peu. Et nous, ce qu'on veut, c'est que cette proposition de loi, pour l'instant, elle est juste déposée, elle n'est même pas inscrite à l'ordre du jour.
Ouais.
Donc ce qu'on veut vraiment pousser, c'est que pour une fois qu'il y a une initiative comme celle-ci, qu'elle soit vraiment poussée, soit en tant que proposition de loi, soit que le gouvernement reprenne une initiative de la même sorte et avec la même ambition.
Alors, avec votre association, d'ailleurs, vous êtes amené directement à avoir des discussions avec le ministère de l'enseignement supérieur en particulier sur ces questions-là ?
Oui, notamment, enfin, mon réseau milite depuis plusieurs années déjà pour l'intégration de ces enjeux dans l'enseignement supérieur.
Ouais.
Donc on les rencontre chaque année à plusieurs reprises.
Et vous suivez le dossier de très près pour essayer vraiment de faire bouger les choses. On va en parler avec Camille dans un instant. Éric Guilliardi, alors là je m'adresse vraiment aux scientifiques, aux scénographes et climatologues. D'abord, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative? Vous n'y participez pas, hein, vous n'êtes pas organisateur ni même scientifique demain, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, moi, je me réjouis de voir que des jeunes veulent s'emparer de ces thématiques-là. C'est important, et dans toutes leurs dimensions, leur complexité. Hein, ce que vous disiez, c'est pas uniquement des sciences du climat, mais c'est aussi de l'économie, de la philosophie, des sciences sociales. C'est extrêmement important d'avoir toutes les dimensions. Mmh. Donc, je ne peux que me réjouir. Et en fait, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une fois que on voit vos invités ici sont déjà presque adultes, mais un citoyen se forme dès le plus jeune âge. Donc c'est extrêmement important de peu à peu d'arriver à ce que ces sciences, qu'elles soient naturelles, physiques et naturelles ou sociales, mm-hmm, dans toute leur complexité, leur dimension, soient enseignées très tôt.
Alors ce qui n'est pas le cas dans ce projet, en tout cas que vous soutenez, Margot Duvivier et Martial Breton, parce que là c'est vraiment autour de l'enseignement supérieur,
oui,
pour l'instant.
Oui, c'est uniquement sur l'enseignement supérieur.
Pour quelle raison d'ailleurs?
Parce que c'est deux systèmes très distincts, hein. C'est pas les mêmes élus ou qui sont en charge de l'éducation primaire, secondaire ou de l'enseignement supérieur. Donc c'est deux fonctionnements distincts, et quand il y a des programmes au niveau national pour le primaire ou le secondaire qui existent, même s'ils sont encore très imparfaits, dans l'enseignement supérieur, il n'y a absolument rien.
Eh bien, on en parle tout de suite puisque c'est la chronique de Kevin Cronier.
France Inter. La Terre au carré.
Allez, on passe au vert avec vous, Camille.
Oui, je suis allée voir les ministères concernés, donc Éducation nationale et Enseignement supérieur, parce qu'ils travaillent chacun donc sur cette question d'insérer, d'injecter la question environnementale dans les enseignements. Alors, mm-hmm, il y a déjà des choses en classe, hein. Une école à l'avant-poste de la transition écologique, clame fièrement le ministère de l'Éducation sur son site internet. Au lycée, on aborde en seconde l'impact des activités humaines sur le milieu, en SVT, Sciences et Vie de la Terre, et en Histoire Géo, par exemple. C'est le cas aussi en première, avec un gros volet dans les cours d'enseignement scientifique commun à toutes les filières. Et pour la terminale, la totalité de cet enseignement scientifique sera consacrée aux enjeux climatiques à partir de la rentrée 2021.
Mais là, ça n'est que le lycée, Camille.
Voilà, parce que la maternelle à la troisième, c'est pas encore vraiment ça. Le ministre de l'Éducation a demandé au Conseil supérieur des programmes de travailler sur la question pour, je cite, « renforcer les éléments ayant trait au changement climatique, au développement durable et à la biodiversité de l'école au collège ». Je vous en ai déjà parlé ici. Le rapport vient d'être remis à Jean-Michel Blanquer, légèrement occupé par les retraites ces derniers jours. Donc, je suis allée voir le directeur général de l'enseignement scolaire. Il s'appelle Édouard Geffray. C'est lui qui pilote l'enseignement, hein, comme sa fonction l'indique, avec une grosse bouteille de coca sur son bureau.
C'est vrai, je limite ma consommation, hein, je vous rassure, mais...
Bon, niveau contenu, c'était pour le petit clin d'œil. Niveau contenu, l'idée, c'est de ne pas cantonner le climat à certaines matières, mais de rendre, vous le disiez, Éric Guilliardi, la question transversale.
C'est quelque chose qu'on va retrouver absolument partout. Lorsque vous êtes dans l'étude de texte en français, vous avez des études de texte sur la civilisation industrielle qui vont interroger notre rapport à la consommation, par exemple. Vous allez avoir des études de texte qui vont interroger le rapport à la nature. La poésie est souvent un éloge à la nature. Et puis, hop, quand je vais passer ensuite en cours de SVT et qu'on va m'expliquer que 75% des passereaux ont disparu en 30 ans, je vais forcément faire le lien entre un certain rapport à la nature, à la biodiversité, j'allais dire au sens presque poétique du terme, et puis un rapport beaucoup plus scientifique, c'est-à-dire comment lutter contre cette disparition. Et en sortant dans la cour, je vais pouvoir aller installer un nichoir avec mes camarades qui va précisément permettre de lutter contre ce phénomène. Donc il y a une continuité très forte entre ce que j'apprends à 360 degrés et comment j'agis à l'école et chez moi.
Et pour les plus petits, c'est l'observation pour faire découvrir la nature qui va être développée. Tout cela dès la rentrée prochaine, dans l'idéal, en 2021 plus probablement.
Alors, pour les étudiants, Camille...
Eh bien, on le disait, 90% quasiment des formations n'abordent pas de manière obligatoire les enjeux climat et énergie. Et les trois quarts n'en parlent pas du tout. D'où la proposition de loi dont on parlait également. Mais c'est un peu plus complexe. Donc, en raison de l'autonomie des établissements, écoutez la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal.
Il y a des formations dans lesquelles, effectivement, on n'aborde jamais ces sujets-là. Mais parce que dans l'enseignement supérieur, on n'a pas de programmes nationaux, on n'est pas à l'éducation nationale. Il y a des diplômes nationaux qui reconnaissent un corpus de connaissances et un corpus de compétences, mais il n'y a pas de programme imposé aux enseignants-chercheurs dans l'enseignement supérieur. C'est le principe de la liberté académique.
Donc, même si elle assure être elle aussi préoccupée par la question, elle ne peut pas dire aux écoles et aux universités « voilà ce qu'on va faire, c'est comme ça et pas autrement ». Il faut le faire ensemble avec établissements, étudiants, chercheurs, mais aussi entreprises, dit-elle. Et le rendez-vous est déjà pris. Elle nous l'annonce, s'il vous plaît, en exclusivité mondiale.
C'est quelque chose qui va se faire dans le cadre d'un groupe de travail que je lance au mois de janvier pour construire justement les meilleurs outils. Tout le monde est prêt. Et donc, c'est le moment de proposer des choses concrètes.
Avec pas mal de réflexions à venir parce que toutes les formations doivent être transformées.
Vous conviendrez avec moi que lorsque vous voulez avoir, par exemple, un diplôme de licence d'histoire, la première chose qui vous vient à l'idée, ça n'est pas forcément de mettre un enseignement autour de l'environnement, du développement durable ou du climat dans la construction d'un corpus de connaissances qui relève de l'histoire ou qui relève d'une autre discipline.
L'objectif, en tout cas, là encore, c'est la rentrée universitaire 2020, avec également des outils à venir en ligne, des formations certifiées par des chercheurs, m'a dit la ministre.
Voilà, Camille Cronier, évidemment, c'est à réécouter sur franceinter.fr.
Éric Guillardy, est-ce que c'est assez rapide? Est-ce que c'est pas un peu d'affichage? Et de toute façon, il n'y a plus le choix, les étudiants le demandent. À l'école, il faut le faire, parce que c'est un sujet de société. Vous y croyez à toutes ces formations, de la maternelle jusqu'à la fac derrière?
Je pense que c'est pas une question d'y croire ou pas, ça se met en place.
Mais c'est difficile à faire, je veux dire.
Bien sûr, c'est difficile, mais en même temps, ça fait partie de l'appropriation de ces enjeux par la population et les différentes générations. Et je pense qu'un des défis, c'est la diversité des sujets qu'on aborde dans cette question.
On parle pas que du climat, hein, évidemment.
Non,
il y a beaucoup de sciences qui sont...
En fait, on est face à des choix de société qui incluent une partie scientifique. Il faut savoir effectivement combien de gaz à effet de serre, quel impact ça a, mais aussi qu'est-ce qui a de la valeur pour nous, où est-ce qu'on est vulnérable, quel type de risque on est prêt à prendre. Et ça, c'est une discussion de société. La science peut l'informer, mais c'est pas elle qui décide. Pour les petites classes où il y a, par exemple, au primaire, où il y a un enseignant, on va peut-être plus facilement pouvoir donner cette dimension systémique ou à travers la discipline. Au collège et au lycée, ça devient plus difficile. Et là, il y a un défi sur lequel on travaille. Hein. On est engagé avec l'Office for Climate Education pour appuyer ce travail de l'éducation nationale. Maintenant, dans l'enseignement supérieur, comme vous le disiez, c'est plus compliqué, mais en même temps, ça va être presque être plus facile parce que les étudiants sont acteurs. Mmh. Et donc, déjà le demandent, on le voit bien. Ouais. Donc, il faut le temps
Sauf
que ça...
Sauf qu'il y a cette... Et autonomie, si chère justement aux universités, Martial Breton, ça va être justement un des problèmes à surmonter selon vous?
Mais, ou pas? C'est très multi-acteurs comme problème, donc il va falloir autant discuter avec le ministère qu'avec la CPU, les présidents d'université,
ouais.
Pour voir avec eux ce qu'il est possible de faire. En préservant l'indépendance, mais en leur montrant qu'on en a besoin et que les universités, que les élèves, les étudiants le réclament dans toutes les formations et que... En fait, ce qu'on veut, c'est pas forcément transformer tout le monde en scientifique, en écologue, en climatologue, etc. C'est que dans les formations, ça soit adapté pour chaque formation, que dans des écoles de commerce, dans des facs de commerce, on apprenne et que on discute de ces enjeux-là quand on parle d'économie, que on remette aussi en question nos paradigmes dans chaque discipline. Il faut décloisonner massivement cette vision très spécialisée, surtout dans les études supérieures où le cursus en fait vise à ce qu'on se spécialise de plus en plus. Donc il faut ouvrir beaucoup plus au contraire. Et décloisonner les disciplines.
Margot Duvivier, c'est quoi l'enjeu finalement pour les jeunes générations aujourd'hui d'être informées, de connaître en tout cas ces dossiers beaucoup mieux que ne l'étaient les précédentes générations?
Je l'ai un peu évoqué avant. En fait, on peut pas considérer qu'on va faire une transition écologique comme le gouvernement souhaite le faire si les citoyens ne savent pas concrètement ce que c'est que le changement climatique. Or, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de jeunes, mais pas que, aussi des adultes, qui ne savent même pas ce que c'est que l'effet de serre, par exemple. Donc, c'est essentiel, en fait, juste de comprendre ce que c'est que ce phénomène. Pourquoi c'est un enjeu et il faut y faire face. Mmh. Et c'est essentiel qu'en fait les étudiants puissent comprendre que leur métier va être impacté par ce changement climatique et va avoir un rôle à jouer parce qu'il va falloir à un moment transformer le système économique.
Ouais, sauf que est-ce que l'enseignement supérieur, puisque c'est le dossier sur lequel vous vous attaquez avec cette proposition de loi, est-ce que c'est pas déjà trop tard finalement? Est-ce qu'il faut pas s'y prendre beaucoup plus tôt? Parce que quand on est étudiant et qu'on est justement déjà motivé par ces questions, c'est presque trop tard, non?
Ah, c'est certain qu'il faut aussi agir dans l'éducation nationale, comme vous le disiez, et qu'il faut qu'un socle commun de connaissances soit acquis tout au long de la scolarité, et qu'ensuite, dans l'enseignement supérieur, il soit approfondi et spécialisé suivant les filières.
Éric Guillardy.
Oui, moi je suis d'accord avec ça. Peut-être qu'il y a deux temps dans le cursus formel d'apprendre un certain nombre de concepts, aussi de la démarche scientifique. Hein, c'est important. La formation scientifique, c'est une extraordinaire école d'esprit critique. On veut former des citoyens qui tombent pas dans le conspirationnisme, dans les fake news. Donc la démarche scientifique est à l'appui de ça. Maintenant, je pense que beaucoup de gens sont, et peut-être des directeurs d'instituts ou d'écoles, universités, ont peur que la chose soit politisée. Et je pense que donc de créer ça, c'est peut-être le bon lieu à l'université ou plus tard de faire des lieux d'échange, d'appropriation, où on discute ensemble de ces enjeux, en ayant des bases effectivement scientifiques dans différentes disciplines, mais qu'on réapprenne à s'écouter, à discuter ensemble, à s'approprier, sans que le débat soit idéologisé dans un sens ou dans l'autre, ou ce qui a beaucoup lieu en ce moment. Donc c'est peut-être que ça peut être le cadre de faire ça. Je pense que la journée de demain sera un bon exemple à l'ENS.
Voilà, à l'ENS, donc entre 9h et 18h. Et pour ceux qui ne sont pas à Paris, ce sera retransmis également sur la page Facebook.
Sur l'événement et sur les pages des organisations qui organisent la journée.
Et il y en a beaucoup. Donc on a mis tout ça en lien sur la Terre au Carré pour réunir un petit peu les contacts et aller directement à l'essentiel pour les auditeurs qui souhaitent donc suivre ça demain. On se retrouve évidemment dans un instant avec justement les messages de tous ceux qui nous écoutent au standard 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque.
Je me sens bien, je prends un mot.
Springfield 61 et c'était l'épée.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, Make Our Lessons Green Again. C'est donc demain à l'ENS rue d'Ulm à Paris, entre 9h et 18h. Une grande journée, donc un cours exceptionnel avec des scientifiques, des philosophes, quelques penseurs de la question, des députés même, pour parler justement de l'enseignement de ces matières autour de l'enseignement du climat, de la biodiversité au sein de l'université. Et vos messages sur franceinter.fr avec nos invités Margot Duvivier, Martial Breton. Vous faites partie des organisateurs justement de cette journée. Et puis Éric Gliardi, qui est océanographe et climatologue au CNRS et membre du conseil stratégique de l'Office pour l'éducation du climat. Et vous pouvez nous rejoindre bien sûr avec toutes vos questions. Camille, vous aviez justement un message.
On a un message de Pierre. Alors c'est pour vous, Martial Breton, je crois, qui fait AgroParisTech. C'est ça. Pierre dit, concernant l'enseignement de l'écologie dans les grandes écoles, le pire c'est que l'écologie ne figure pas dans la formation des ingénieurs forestiers à AgroParisTech. C'est vrai ?
Moi j'étais en cursus universitaire. Donc du groupe Paris-Saclay, et j'avais mes cours à AgroParisTech, et dans une petite classe avec un master, j'ai fini là il y a quelques semaines, qui s'appelait Gouvernance de la transition, écologie et société. Là pour le coup, c'est typiquement une formation qui mélange des cursus très interdisciplinaires, autant en politique, en économie, en droit, etc., et en écologie avec les connaissances scientifiques. Après on avait nos enseignants notamment qui nous racontaient que sur les premières années de l'école d'ingénieur agronome à AgroParisTech, dans les amphis, où là, du coup, c'est 200-300 ingénieurs. Le modèle qui est encore majoritairement enseigné, c'est un modèle agro-industriel classique. On est encore sur la mécanisation, l'utilisation de la chimie, agrochimie, etc. Je ne sais pas à quel point ils n'ont aucun cours ou pas sur l'écologie, mais c'est vrai que le modèle présenté est encore celui qu'on sait très délétère à l'environnement.
Ça choque beaucoup les étudiants aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que c'est eux qui font beaucoup bouger les lignes précisément.
Je pense qu'il y a de plus en plus de pression, il y a de plus en plus de demandes et de remises en question. Après, ce qui est difficile, c'est que encore une fois, on peut pas exiger d'étudiants qui n'en ont jamais entendu parler de le demander. Par exemple, forcément, la réaction, c'est que quand on demande aux élèves ingénieurs, on avait un enseignant qui nous racontait ça, qui nous disait quand il leur demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, il y en a très peu qui vont par exemple dire moi je veux bosser en agroécologie ou dans une AMAP. Parce que malheureusement, quand on n'a pas une connaissance du sujet, on peut difficilement en parler.
Par rapport à ça, Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, me disait hier, me donnait un chiffre, 38% des étudiants ne croiraient pas, en tout cas seraient climato-sceptiques, c'est-à-dire ils ne seraient pas du tout sensibles à la question écologique et ne s'y intéresseraient pas, et même ne le croiraient pas. J'aime pas employer ce terme parce qu'on parle de science, mais Margot Duvivier, vous le remarquez dans les amphis, par exemple?
Maintenant, c'est dur à dire, étant donné que commercial, j'ai fait un master spécialisé, mais mon expérience, j'ai fait mes 4 premières années à Sciences Po Aix, et c'est vrai que dans ma première année, j'étais vraiment l'une des seules à me soucier de l'environnement. Enfin, on était un petit groupe. Et en reparlant à mes camarades plus tard, 3-4 années plus tard, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à s'intéresser à ces questions-là. Donc après, je sais pas d'où sort ce chiffre.
De Frédéric Vidal.
J'ai vraiment. Enfin, oui, mais du coup.
C'est la source d'information principale de Camille Cronier.
Pour aujourd'hui.
Mais du coup, non, j'ai vraiment perçu un changement. Et après, c'est sûr qu'en fait, on peut pas demander, comme le dit Martial, aux étudiants de pousser, alors que pour pousser pour que ces matières soient intégrées, alors même qu'en fait, ils n'en ont jamais entendu parler autant dans leur primaire que dans leur secondaire que dans leur enseignement supérieur.
Il y a beaucoup de longs messages, nous dit Denis Delbecq, notre rédacteur en chef, d'enseignants qui nous écrivent là en ce moment pour nous dire qu'ils n'ont pas attendu les lois et les décrets pour enseigner le climat et la biodiversité. On pourrait quand même le signaler aussi, Éric Gliardi, non ?
Oui, tout à fait. C'est en fait le programme. En France, que ce soit en géographie ou en SVT, laisse une certaine latitude pour que les enseignants s'emparent de certains de ces sujets. Mais en même temps, ce que nous on reçoit, c'est que beaucoup d'enseignants sont parfois démunis sur comment présenter ça, comment l'enseigner, puisque c'est compliqué.
Donc il y a un enseignement des enseignants à faire d'abord aussi sur ces questions-là.
Par exemple, on a d'exemples dans des zones rurales, des parents qui viennent voir l'enseignant en disant comment est-ce que vous pouvez enseigner à mes enfants qu'il ne faut plus manger de viande. Et donc c'est vrai que le professeur a une position importante dans ce qu'il enseigne aux enfants.
Et difficile,
hein, on le voit aussi sur d'autres aspects, qu'il soit accompagné, c'est vraiment important.
Martial Breton, sur cette question.
Oui, complètement. D'ailleurs, on voit qu'autour du mouvement des jeunes en grève pour le climat au niveau mondial, qu'on appelle souvent Fridays for Future, il y a des collectifs d'enseignants qui ont, parce que forcément les jeunes qui font grève, les enseignants, c'est les premiers concernés, c'est les enseignants, et il y a beaucoup de collectifs en France et partout dans le monde, de collectifs enseignants pour la planète ou d'autres collectifs, qui ont soutenu, qui ont participé, ou en tout cas qui ont décidé d'en parler dans les classes, etc. Donc qui sont très impliqués.
Ouais. Bernard Talil, il nous dit ceci dans son message, ce domaine d'enseignement rentrera-t-il dans les évaluations de l'école dans notre pays? C'est facile de dire que l'école périclite, mais on demande aux enseignants d'éduquer à tous les sujets de société, et on va remettre la faute sur l'école si ça ne fonctionne pas. Marcel Breton.
Oui, et d'ailleurs, on peut absolument pas, avec les très peu de moyens malheureusement dont dispose l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, on va pas reprocher aux enseignants. C'est pas eux qui sont responsables. Et il y en a qui sont volontaires et qui ont envie de participer. Donc l'objectif, c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille avec les ministères.
Margot Duvivier, et puis ensuite Eric Guilherdi et Camilla.
Oui, la formation des enseignants est essentielle, et d'ailleurs ça figure aussi dans la proposition de loi, en fait, que les enseignants, quand ils entrent après leur concours, ils ont une année de formation, qu'ils puissent aborder ces sujets à ce moment-là. Parce que pour l'instant, c'est génial que des enseignants s'emparent de ces sujets et en font part à leurs élèves, mais ça repose uniquement sur de la volonté. Que des enseignants le fassent à des élèves, mais sur la base de leur propre volonté. Tant qu'en fait, tous les enseignants n'ont pas l'obligation de le faire, ça restera en fait épisodique.
D'autant qu'il peut y avoir d'ailleurs parfois des enseignants qui ne sont pas non plus dans cette
convaincus voilà, en tout cas de la science
dans cette dynamique
là.
D'ailleurs, on a des messages de Patrice et de Fleur qui eux disent il faudrait les encourager à faire des réalisations concrètes si justement il manque d'idées, planter des haies ou regarder des films notamment pour les enfants. Justement, par rapport à ça, Eric Guilherdi, moi j'ai une question. Le Conseil supérieur des programmes, on le disait, en ce qui concerne l'éducation nationale, est en train de travailler pour verdir entre guillemets les programmes. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faudrait pas une instance presque spécialisée de cette question qu'est l'enjeu climatique, qui est extrêmement compliqué? Est-ce que ça suffit d'avoir des universitaires comme ça qui vont réfléchir à cette question-là?
Alors, les programmes, c'est une mécanique compliquée pour les faire. Il y a de nombreuses contraintes et disciplines qui doivent être enseignées. Donc, c'est une première étape, c'est clairement de voir comment ces sujets nouveaux peuvent être emparés. D'ailleurs, on parlait d'évaluation, mais on peut faire des mathématiques, de la physique, de la SVT, en prenant un exemple basé sur l'environnement, le climat, etc. Donc ça, c'est des choses d'ailleurs sur lesquelles on travaille. Hein, dans l'Office for Climate Education, on travaille avec le ministère pour former les professeurs, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est extrêmement important, leur fournir des ressources. Donc c'est un travail de longue haleine sur lequel on travaille qui va donner. Donc est-ce que, encore une fois, il y a beaucoup on forme des citoyens, pas uniquement des gens qui vont travailler sur le climat, il y a beaucoup d'autres aspects que le climat. Est-ce qu'il faut une instance spécifique? Non, il faut peut-être remettre ces sujets-là au même niveau que les autres.
Julie demande sur franceinter.fr, et ce sera notre dernière question, ce que vous pensez des éco-délégués qui veut répondre. C'est dans les collèges et les lycées d'ailleurs?
Collèges et lycées.
Martial Breton.
C'est bien, c'est mieux. Déjà, c'est une première bonne étape. Est-ce que c'est suffisant? C'est sûr que si on met la responsabilité sur les élèves et que ce soit à eux de faire, etc., il faut le faire de façon globale et accompagner les enseignants aussi.
Margot, très vite, qu'est-ce que vous en pensez de ces éco-délégués?
Oui, je suis d'accord, c'est une bonne initiative, mais après, il faut faire attention à ne pas se cacher derrière ça pour dire c'est bon, on a fait quelque chose, et trouver ça comme une excuse pour ne pas changer les programmes.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ceux qui sont à Paris demain, c'est entre 9h et 18h, donc ce cours Make Our Lessons Green Again, ce sera donc à l'ENS, rue d'Ulm, à Paris, dans le 5e, et puis évidemment, c'est retransmis en direct sur Facebook pour tous ceux qui souhaitent suivre cette journée. Merci beaucoup à tous les trois, en tout cas, d'être venu aujourd'hui. Merci. Dans la Terre au carré, un boulanger qui se préoccupe du climat. Ce sera le portrait d'Antoine Lee juste après les informations. Vous êtes sur France Inter, il est 14h. Laetitia Gaillet, les infos, bonjour.
Bonjour, c'est parti pour le marathon des consultations à Matignon. Édouard Philippe, le Premier ministre, et son secrétaire d'État, le secrétaire d'État chargé des retraites, ont commencé à recevoir les partenaires sociaux. Premier à être reçu l'UNSA, suivra ensuite la CGT. Alors, y a-t-il une place pour la négociation? Pas question de dénaturer le projet de réforme des retraites, a dit Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Lors de la conférence de presse de sortie, Sibeth Ndiaye, sa porte-parole, a donné quelques précisions sur l'HPI pivot. La porte-parole du gouvernement assure que l'exécutif a proposé cet âge pivot au cas où les partenaires sociaux n'arrivent pas à s'entendre. Pour l'équilibre du système, c'est aux partenaires sociaux, dit-elle, d'en discuter les modalités. Autre sujet abordé en Conseil des ministres, celui de la revalorisation du SMIC. Il n'y aura pas de coup de pouce au 1er janvier prochain, juste la revalorisation normale, soit 15 euros de plus par mois pour les 2,3 millions de bénéficiaires. Le SMIC, le salaire minimum, s'établira à 1219 euros net en 2020. Huawei envisage d'ouvrir une usine en Europe où il produira des composants pour les réseaux 5G. Ce sera la première usine hors de Chine. Le patron chinois de Huawei, Liang Yuan, le dit aujourd'hui à l'agence France Presse. Aucune localisation n'est pour l'instant donnée pour cette usine. Pour ce qui est du calendrier, Liang Yuan s'est contenté de dire très rapidement. Et pour couper court aussi aux rumeurs d'espionnage de Huawei, le géant chinois des télécoms assure qu'il n'a jamais fait l'objet d'une demande d'espionnage de la part des services de renseignement chinois et qu'il refusera à l'avenir toute requête allant dans ce sens. Notre principe suprême, dit-il, est de nous conformer strictement à la loi de chaque pays où nous travaillons. Les professionnels de santé doivent signaler à la justice les victimes de violences conjugales, celles qui sont en danger vital immédiat. L'Ordre des médecins se dit aujourd'hui favorable à une levée partielle du secret médical. Cette proposition qui divise pourtant la profession est issue du Grenelle sur les violences faites aux femmes. Je n'ai rien fait de mal. Donald Trump persiste et signe aujourd'hui. C'est terrible, ça ne devrait jamais arriver à un président. Le président américain s'exprime via Twitter quelques heures avant le vote de la Chambre des représentants sur sa destitution. Ce sera un vote historique mais qui n'aura qu'une portée finalement symbolique car c'est le Sénat à majorité aux mains des Républicains qui doit ensuite organiser le procès du président et les sénateurs ont déjà fait savoir qu'il serait acquitté. Les autorités indiennes interdisent aujourd'hui les rassemblements dans certains quartiers de la capitale New Delhi, les lieux où il y a eu des affrontements hier entre policiers et manifestants opposés à la loi sur la citoyenneté. Ces quartiers sont à majorité musulmane. La loi en question propose de faciliter l'attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés afghans, bangladais et pakistanais, mais ce à condition de ne pas être musulman. 14h03 sur Inter, la suite de la Terre au carré, c'est avec Mathieu Bidard.
Merci Laetitia Gaillet, à tout à l'heure 15h pour les prochaines informations. Demain, notre planète, vous le savez sans doute, c'est le thème du cycle de conférences que France Inter vous propose cette année et le deuxième rendez-vous déjà aura lieu mardi 28 janvier prochain à 20h sur le thème « Se nourrir du sol à l'assiette, nos habitudes alimentaires ». Se transforme. Comment manger toujours avec plaisir, mais tout en préservant l'environnement. Agriculteurs, sociologues, agronomes et chefs cuisiniers, ils viendront donc nous en parler. On évoquera avec eux la production, la consommation, l'alimentation durable. Et je vous invite à vivre cette soirée donc en direct du studio 104 de Radio France, mais aussi en direct dans une centaine de salles de cinéma partout en France. Les réservations sont ouvertes à partir d'aujourd'hui sur franceinter.fr. N'hésitez pas donc à prendre vos places pour le 28 janvier dès maintenant. Antoine Lee, vous êtes avec nous et pour la Terre au Carré, vous avez rencontré des personnes qui prônent la sobriété et l'autosuffisance. Et aujourd'hui, direction l'Isère, à Saint-Hilaire-de-la-Côte, à la rencontre d'un boulanger itinérant.
Oui, Guillaume Dubourg a lancé sa boulangerie itinérante il y a un an. Il se déplace avec une sorte de petite maison en bois montée sur des roues. Elle lui sert à la fois de fournil et de boutique. Dans cet espace de 14 mètres carrés seulement, il fabrique puis vend son pain trois fois par semaine dans trois villages différents de l'Isère. Il propose par exemple des pains complets, des pains aux noix, des pains sans gluten. Et ces journées commencent à 3h du matin pour que ces pains soient prêts à 16h. Pour ce boulanger au parcours atypique, c'est plus qu'un métier. C'est un engagement en faveur de l'environnement, une alternative à la nourriture industrielle.
Voilà, donc là, je suis en train de démouler des pains. Là, c'est des pains aux graines. Tout est bio, tout est au levain naturel. Il n'y a pas de levure industrielle, il n'y a pas de produits chimiques. Et puis je pétris à la main, voilà, vraiment à l'ancienne, hein, comme il faisait dans le temps. Alors là, j'ouvre le four. Donc c'est un four qui fonctionne au bois. En dessous, il y a une petite porte dans laquelle il y a le feu, là, qu'on le voit et on l'entend un peu crépiter. Le feu est en dessous et la chaleur va passer autour de la chambre de cuisson. Faire du bio, c'est à la fois respecter la terre, c'est respecter la santé des gens, la mienne, celle des agriculteurs qui travaillent de cette façon-là, et puis respecter aussi celle des personnes qui vont manger mon pain, quoi. Donc moi, c'est une des façons de réagir face à la problématique environnementale qui se pose aujourd'hui. Au moins 80% de mes matières premières viennent de producteurs locaux. Donc la farine, elle vient de 20 km d'ici, là. Voilà. Je vais mettre le minuteur pour pas oublier de les sortir quand ce sera cuit. Voilà, allez. Alors avant ça, j'ai fait berger pendant pas mal d'années. J'ai été scaphandrier pendant 7 ans. C'est-à-dire que je travaillais sous l'eau sur des installations hydroélectriques. Voilà. Mais c'est pas le métier où je me suis senti le mieux. Parce que justement, j'étais plus dans des installations industrielles. Et puis, il y a quelques années, j'ai rencontré une gentille grand-mère qui est devenue un petit peu ma maman adoptive, on va dire, ici dans l'Isère, qui m'a appris à faire le pain parce qu'elle le faisait depuis 40 ans peut-être. Il a fallu que je passe un CAP de boulanger parce que c'est obligatoire pour pouvoir s'installer en boulangerie. Et ça m'a permis de continuer à travailler sur ce que j'avais envie de faire. Ça sonne, alors voilà, je reprends mes gants parce que le four est très chaud. Voilà, je rouvre la porte. Les brioches et les fougasses, ça commence à gonfler. Les pains de mie aussi.
Guillaume, est-ce que vous avez l'impression de faire le même métier que les boulangers classiques ?
En fait, ça n'a juste rien à voir ce que je fais. On fait du pain, mais c'est pas la même chose. Dans des boulangeries classiques ou industrielles, il y a que des machines en fait. Tout est fait avec des machines. Hein. Donc une boulangerie, ça consomme énormément d'énergie. Moi, dans mon projet, je voulais que ce soit une boulangerie qui consomme très peu d'énergie, voire presque pas. Donc la plus grosse énergie que je consomme dans mon projet, finalement, c'est de me déplacer avec le fourgon, de tracter la boulangerie et de l'emmener dans le village d'à côté, qui est à peu près à 10 km, quoi. Donc j'ai quand même à l'extérieur deux panneaux solaires, vous avez peut-être remarqué, qui servent en fait à fournir la lumière pour quand j'arrive le matin, surtout l'hiver, où à 3h le matin, il fait nuit jusqu'à 7h30 maintenant. Voilà, là, il est l'heure d'ouvrir, ouais. Donc les premières personnes vont arriver. Bonjour, vous pouvez rentrer.
Donc moi je viens chercher mon pain. Aujourd'hui je vais prendre un sésame bien cuit. Moi je suis ravie parce que en plus le pain, je le trouve excellent.
Ici il n'y a pas de boulangerie dans le village ?
Dans le village non, il n'y a pratiquement pas de commerce à part un café.
Il y a une vraie volonté de remettre de la vie dans le village effectivement et puis de créer du lien avec les habitants, entre les habitants. Bonjour. Alors,
bonjour, je vais prendre un pain moulé au sésame.
Qu'est-ce que vous pensez de cette boulangerie itinérante ?
Je trouve que c'est une idée formidable et c'est pile poil ce que j'aime, c'est-à-dire c'est écologique, les pains sont d'excellente qualité avec du levain, des farines avec des céréales anciennes donc qui sont moins agressives et plus digestes. Moi je suis fan de son pain.
C'est le meilleur moment de la journée en fait quand les gens arrivent. J'ai bossé toute la journée dur et tout seul et là il y a du monde qui arrive et je reçois toujours plein de compliments et ça fait super plaisir et ça fait chaud au cœur et ça redonne la pêche quoi en fait.
Merci, au revoir.
Merci, à bientôt, au revoir.
Et nous étions donc dans l'Isère, à Saint-Hilaire-de-la-Côte. Antoine, et les photos et le lien de votre reportage donc autour de cette boulangerie itinérante sont disponibles sur la page Facebook de La Terre au Carré.
Et j'avais prévu de vous faire goûter son pain au sésame à Camille et à vous. Mais bon, bah voilà, j'ai tourné le reportage la semaine dernière. Ah bah et puis bon, bah voilà, le temps passé, voilà. Et il était plus comestible, mais je l'ai mangé. Et vous pouvez me croire sur parole, il était délicieux.
Bon, allez, vous pourrez quand même revenir très bientôt. Merci beaucoup, Antoine Lee. Reportage à réécouter sur franceinter.fr.